9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Il y eut d'abord le drame, le traumatisme, le mot n'est pas trop fort, de voir ce qu'on croyait éternel, une part du patrimoine, et donc de nous-mêmes, disparaître, dévoré par les flammes. Nous serons dans un instant avec le grand auteur contemporain de Notre-Dame, Sylvain Tesson. 150 fois, il l'a escaladé par les toits, puis tous les jours, par les marches, pour se rééduquer après sa chute. Maintenant, après le corps de l'écrivain, c'est le toit de la cathédrale qu'il faudra réparer. Comment ? Restaurer ou reconstruire ? Reproduire ou inventer ? Avec nous, l'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, et le doctorant en archéologie et professeur d'histoire, Clément Salviani. Enfin, Angélique Kidjo, qui chantera ce soir pour Notre-Dame lors d'un concert-événement dans la cour des Invalides et dont la voix chaude et puissante fait revivre les grands succès de la cubaine Celia Cruz. C'est son nouvel album. Mais d'abord, voici d'autres voix. C'est le florilège que nous vous offrons pour ouvrir cette arrivée cette semaine. Les voix des écrivains, poètes, paroliers, chanteurs qui ont célébré le grand vaisseau de pierre posé depuis pas loin d'un millénaire sur l'île de la Cité.
Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée, cependant Paris qu'elle a vu naître.
Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Mais aussi tout là-haut, là-haut, la regardait maintes gargouilles. Regarde Pierre, l'un se mouille, c'est l'œil bleu de Quasimodo.
Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveurs et relisant le livre de Victor. Alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort.
Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger.
À lutèce voguante aux aurores de nacre, clocher, sonne là-haut la cloche des patries. À la cité des rois, des croix, des gueux, des sacres, que retentisse encore le glas gras des tueries.
Un âne plein autour des tours de Notre-Dame, un âne clame son existence avant qu'elle ne se fasse. Jette du riz sur le parvis, blanchis les gargouilles, jette un sort à nos chères anatomies.
Il y avait d'abord la voix profonde de Pierre Brasseur sur le poème de Gérard de Nerval, Juliette Gréco sur la chanson de Jean-André Jacques et Hubert Giraud, Sous le ciel de Paris, à Paname, tout peut s'arranger. Évidemment, Claude Nougaro sur deux de ses chansons, Quasimodo et Mon Paris. Et puis, Alain Bachung, Un âne plane.
Europe 1.
Dans un instant, Sylvain Tesson, aventurier de Notre-Dame.
Europe 1.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec « C'est arrivé cette semaine ».
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour Patrick Cohen.
Écrivain, voyageur, ancien escaladeur de cathédrale il y a longtemps, stégophile, c'est-à-dire amoureux des toitures, familier de Notre-Dame, parce que je crois que vous vivez à ses pieds quand vous êtes à Paris. Qu'avez-vous éprouvé en voyant la flèche, cette si célèbre flèche, s'embraser, s'effondrer ?
J'ai éprouvé un pincement de cœur, mais au sens propre du terme, enfin physiologique, enfin une douleur, la même que celle que l'on éprouve lorsque l'on perd un être de chair. Je crois qu'il y a quelque chose de charnel dans ce monument de pierre, et ne serait-ce que parce que un monument comme Notre-Dame, c'est l'incarnation de l'invisible. C'est l'incarnation de quelque chose qui n'existe peut-être pas, mais dont on peut croire qu'il existe. Et vous savez, il y a ce mot tellement beau de Paul Valéry, cité souvent par Régis Debray, « que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» C'est merveilleux d'entendre cette phrase parce que c'était ça Notre-Dame, c'était quelque chose que nous ne savions pas notre bonheur d'avoir ce trésor à côté de nous. Et maintenant, nous l'avons malheureusement, il a fallu que ces événements arrivent pour que nous le comprenions.
Notre-Dame fait partie des monuments qui parlent à la fois aux croyants et aux incroyants.
Oui, je crois que c'est à la fois le miracle de Notre-Dame et le miracle chrétien en général. Et celui qui vous dit ça, c'est un incroyant. Moi, je suis athée. Mais le miracle, c'est que Notre-Dame embrasse tout. Et je crois que la chrétienté, enfin le christianisme plus exactement, embrasse tout, ne fait pas l'inventaire entre les choses. C'est-à-dire que tous les Parisiens, quels qu'ils soient, et même s'ils sont des libres penseurs, ce que je croyais d'ailleurs moi être mon cas, nous nous sentons étonnamment les enfants de Notre-Dame.
Sylvain Tesson, après votre accident, après cette terrible chute qui vous a brisé en mille morceaux, en quoi Notre-Dame vous a aidé à guérir ?
Les médecins m'avaient préconisé une rééducation et tous les jours, plutôt que d'aller dans un centre sportif, tous les jours, je me suis porté au pied de la cathédrale et j'ai lentement entrepris de gravir les 450 marches des tours. Les agents de sécurité m'avaient très amicalement donné la possibilité de rentrer sans trop attendre et je montais jusqu'au sommet de la tour sud, qui était accessible au public. Et ça a été pour moi à la fois une élévation d'ordre physique, donc une reconstitution physiologique, mais surtout, je me suis plongé dans le mystère. Ça n'est pas que des termes vagues, abstraits et vaseux. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a des paroles, il y a des pensées, il y a des chants, il y a des prières qui ont été absorbées sous ces voûtes et dans ces pierre calcaire du bassin parisien, et peut-être par un phénomène chimique, peut-être tous ces mots, toutes ces pensées rayonnent-elles et peut-être les sentons-nous rayonner lorsque nous rentrons sous ces voûtes. Plus je montais vers le sommet de Notre-Dame et plus l'exercice devenait facile, parce que l'effort est un remède pour un corps blessé.
Cette flèche dont on parlait il y a quelques minutes, cette flèche, est-ce que vous espérez la revoir un jour à l'identique ou est-ce que perdu pour perdu, il faut faire autre chose, à votre avis ?
Je ne sais pas, je n'ai pas véritablement d'opinion là-dessus. Je m'intéresse moi plutôt au mouvement extraordinaire qui a suscité sa chute. Je crois que nous aurions grand tort de nous passer de croire que c'est un signe. J'entends beaucoup d'esprits très forts dire qu'il ne faut pas considérer que c'est un signe, mais je trouve merveilleux, moi, de croire aux signes, même si on sait par ailleurs que les signes n'existent pas. ça s'appelle la pensée symbolique. Quoi.
Ouais, mais c'est un signe de quoi, Sylvain Tesson ?
Mais je ne sais, c'est le signe que peut-être ne pouvons-nous pas continuer comme ça, c'est-à-dire à nous déchirer, à ne pas nous entendre, à nous servir de toutes choses pour nous heurter. Je trouve que l'idée que les choses parfois ont une signification n'est pas une idée de croyance, c'est simplement une idée d'un esprit qui a l'esprit symbolique, qui aime à se dire que les choses ont des arrière-plans. Vous savez, il y a une très belle phrase d'un grand écrivain qui s'appelait Léon Blois, qui était un catholique très ardent, très militant d'ailleurs, et très douloureux, et qui disait « Dieu se retire ». Et moi, je pense que si jamais nous ne réussissons pas à nous servir de ce drame pour penser à une concorde, et ben on pourra peut-être se dire que la flèche s'est retirée de notre carnaval. Et il faut être digne de ces flèches, et puis il faut peut-être aussi être digne de leur destruction, quoi. Sinon, on continuera à danser sur les ponts en nous haïssant les uns les autres et en nous espionnant tous.
Merci beaucoup Sylvain Tesson d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre sur Europe 1. Les éditions des Équateurs vont publier bientôt trois de vos textes sur Notre-Dame et ce sera évidemment au profit de la reconstruction de la cathédrale. Merci encore.
Je vous remercie.
Europe 1.
Et maintenant, le débat sur ce chantier, pas comme les autres, restauration, reconstruction, invention, reproduction. Dans ce studio en direct, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine, et Clément Salviani de l'Institut National d'Histoire de l'Art.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Bonjour.
Vous
Patrick
avez été
Cohen.
La directrice du patrimoine au ministère de la Culture entre 1993 et 1997, où vous avez dû faire face à un désastre majeur, l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes en 1994, magnifique palais du XVIIe siècle, qui a été restauré à l'identique.
À l'identique à l'extérieur, pas à l'intérieur, puisque la charpente, on parle beaucoup de charpente en bois, ouais. La charpente du Parlement de Bretagne qui avait brûlé, d'où est parti le feu, et qui était notamment magnifique au-dessus de la salle des pas perdus, avec une voûte en berceau renversé, ouais. N'a pas été restituée, ni la voûte, ni la charpente. On a utilisé des matériaux modernes. Et donc, c'était une charpente non visitable.
Oui.
Elle est devenue visitable et habitable aussi, puisqu'on a créé des bureaux supplémentaires pour les magistrats. Je rappelle, c'est un palais de justice, le Parlement de Bretagne.
Comme à Notre-Dame, là, la charpente ne se voit pas. Mais c'est un autre chantier. Ça s'est fait en combien de temps
Bien à peu près en 4-5 ans. Hein, on avait une urgence très importante et très réelle, qui était que la cour d'appel ne pouvait pas rester indéfiniment dans des bâtiments provisoires. Le ministère de la Justice n'aurait pas accepté de refaire du palais du Parlement de Bretagne une cour de justice si on n'avait pas promis des délais de réalisation raisonnables pour réinstaller les magistrats. Mais nous l'avons fait sans toutefois sacrifier la première phase qui est totalement essentielle, qui consiste à laisser le bâtiment refroidir, sécher, et à faire les bons diagnostics pour avoir les bons parties de restauration.
Alors on va en parler justement à propos de Notre-Dame. Face à vous, un doctorant en archéologie à l'Institut National d'Histoire de l'Art et professeur agrégé d'histoire. Bonjour Clément Salviani.
Bonjour.
Quel est le terme qui vous paraît le plus juste pour Notre-Dame? Restauration, reconstruction?
Alors si on suit la déontologie traditionnelle de tous les corps de métier qui vont avoir à s'occuper de ça, c'est la restauration comme concept qui prime, puisqu'il s'agit de... faire des diagnostics sur les constats d'état, qu'est-ce qui a été endommagé, qu'est-ce qui a été déplacé, qu'est-ce qui a été compromis en termes structurels, esthétiques, en accord avec tout un tas de documents normatifs ou de chartes, notamment la charte de Venise, j'y pense, le conservateur, restaurateur, l'architecte des bâtiments de France, l'architecte en chef des monuments historiques, tous ces corps de métier-là ont pour objectif de restaurer un édifice, c'est-à-dire de lui redonner une cohérence esthétique, en fonction de tout un tas de débats d'ailleurs, hein, sur l'état que l'on redonne, l'état que l'on restaure, ainsi que sur l'apparence. Est-ce qu'on garde une trace de l'accident? Qu'est-ce qu'on transforme en espace visitable? Quels sont les matériaux? Quelles sont les différentes identités visuelles que l'on va donner à l'édifice?
Débat qu'on va avoir dans les prochaines minutes. Avant de savoir ce qu'on fait, il y a la question du temps pour le faire, cette échéance fixée par le président, 5 ans. D'abord, est-ce qu'il est raisonnable de fixer un délai avant d'avoir le diagnostic, avant de savoir précisément ce qu'il y a à réparer, Marie-Vonne de Saint-Pulgent?
C'est-à-dire, un délai de 5 ans, on aura fait le diagnostic et on aura fait le projet.
Oui, oui.
Si on avait dit ce sera rouvert dans 2 ans, on aurait tout de suite pu dire c'est pas possible, c'est impossible.
Oui.
Voilà. Ensuite, la question est de savoir qu'est-ce qu'on rouvre dans 5 ans. Voilà. La priorité, quand même, il s'agit d'une cathédrale, la priorité, c'est la réouverture au culte. Je rappelle quand même, c'est pas par nature un endroit pour les touristes, c'est un endroit pour les fidèles. Donc la réouverture au culte, elle peut se faire peut-être dans ce délai, sous réserve que nous n'ayons pas de mauvaises surprises quand même. Oui. Nous n'en sommes pas à l'abri des mauvaises surprises encore aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mauvaise surprise?
À l'évolution du bâtiment.
Oui.
On voit ce qui est abîmé pour l'instant, dans l'immédiat. Mais un bâtiment, ça bouge. Mmh. Surtout quand il a subi un choc et un traumatisme de cette nature, avec le brasier suivi d'une chute d'un élément architectural qui a crevé la voûte à plusieurs endroits, puis l'eau.
Ouais, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Et maintenant, il y a le climat.
Refroidir et sécher.
Refroidir, sécher. Et en plus, il faut ralentir le séchage parce qu'un séchage trop brutal va provoquer de nouveaux désordres. Il s'agit
Un bâtiment de ce type, c'est vivant.
Oui, c'est vivant. Et donc, il faut contrôler, si vous voulez, le processus de remise à la normale. Et pendant ce temps-là, d'autres choses vont bouger. On voit très bien déjà qu'on a dû étayer, on l'a fait hier, heureusement, les équipes agissent très vite, on a dû étayer des pignons. Oui. Qui, a priori, n'étaient pas abîmés au départ et qui ont des éléments de la voûte ont chuté après la fin de l'incendie. Et je pense qu'il peut y avoir des réactions en chaîne encore sur la voûte. Et la voûte tient le reste. Mmh. Voilà, dans l'architecture gothique, c'est l'ensemble voûte, mur, arc-boutant qui tient l'ensemble. Et donc, voilà, sous réserve que nous n'ayons pas de mauvaises surprises, ça, ce sont pas des surprises contrôlables. Mais sous cette réserve, on peut imaginer que dans le délai indiqué par le président de la République, il y ait une rouverture partielle de la cathédrale.
Mais en tout cas, il y a des mois il y a des mois d'abord d'observation, de diagnostic pour savoir ce qui est abîmé. Et d'ailleurs, il y a aussi un élément exogène, c'est cet échafaudage qui servait aux travaux de rénovation.
Qu'il faut démonter.
Qu'il faut démonter, qui est en partie fondu. Donc c'est un gigantesque mikado qui tient, on ne sait pas quoi, le bâtiment Clément Salviani.
Oui, alors ce que disait Madame de Saint-Pulgent, c'est très vrai. C'est-à-dire que l'architecture gothique, ça repose sur une formule d'équilibre, de jeu des poussées et des contre-poussées. Il y a des piliers qui soutiennent des croisées d'ogives. Ces nervures permettent de tenir la voûte qui ne se porte qu'elle-même. Elle n'est pas censée en fait porter la charpente qui, du coup, s'était effondrer sur elle. Et par un jeu de décharge vers l'extérieur, vers la périphérie de l'édifice, par des arcs-boutants, vous permettez en fait d'obtenir une formule d'élévation vers le haut qui permet d'ouvrir des fenêtres, puisque les murs ne sont plus pleins, ils sont percés. Et elle repose donc cette formule sur une interdépendance partielle des éléments entre eux, ce qui fait qu'une partie peut s'effondrer sans que l'autre suive, certes, mais il faut que tout soit un petit peu en place pour que le jeu des contre-poussées se fasse. Et le cas des pignons du bras nord, du transept notamment, c'est que normalement, ces pignons ne tiennent pas sur des piliers ou sur des voûtes, ils tiennent sur la charpente qui est là pour les contreforter vers l'intérieur. Et du fait de la chaleur, les matériaux mis en œuvre dans ce pignon, du calcaire de Paris, du mortier, a été dénaturé par le chaud, puisque ces matériaux, comme tous les matériaux, même modernes, ils sont vivants d'une certaine façon. Ils subissent la chaleur, ils se dilatent, ils se distendent, ils se craquellent, et ils ont une temporalité de résilience, de remise au sec, de transformation chimique, qui n'est pas juste celle d'un calendrier que l'on peut prévoir à l'avance. Il faut observer, autopsier, diagnostiquer, faire la part entre les différents dommages, puisqu'il y a plusieurs types de dommages. Ce qui préexistait en fait à l'incendie, puisqu'un édifice de 850 ans, ça vieillit, ça bouge, ça évolue, ça pousse, avec parfois des mesures au millimètre près, donc les dommages préalables. En deux, les dommages de l'incendie même, qu'on connaît, qu'on commence à connaître, qu'on commence à observer, mais qui sont à peine visibles, à peine visuels, il faut investiguer profondément. En trois, les dommages de l'extinction, l'eau, le choc thermique, l'eau qui pèse sur les voûtes, qui, encore une fois, il faut le rappeler, ne porte qu'elle-même, Puis ensuite, et le plomb de la toiture qui fait quand même 210 tonnes, ce plomb qui a fondu des 300 degrés, qui s'est écrasé en nappe de plomb.
Plus le plomb et le zinc de la flèche.
Plus le plomb et le zinc de la flèche qui est tombé avec vitesse. Oui. Et enfin, quatrième dégât, comme Madame de Saint-Pulgent le disait, c'est tous les dégâts ultérieurs. Le bâtiment, il va connaître de nouvelles expositions au vent, au chaud, au froid, à la pluie, au gel. Et là, le bâtiment, il va bouger, d'autant plus que sa structure a été altérée. Et donc, le jeu des poussées, des contre-poussées, l'intégrité structurelle va évoluer progressivement. Il va falloir trouver un point de stabilité, un point de non-risque pour persévérer.
Donc, l'emploi
des techniques actuelles va permettre de mieux diagnostiquer.
Bien justement.
On va prévoir les évolutions dans une certaine mesure.
En tout cas, on entend bien, on a bien compris que ce n'était pas juste une toiture à réparer.
Voilà,
c'est beaucoup plus complexe que ça.
C'est pas quelques tuiles.
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, Clément Salviani, on va marquer une pause avant de vous entendre sur cet étonnant paradoxe qui nous conduit, après l'incendie de sa flèche, à se demander s'il faut brûler Viollet-le-Duc.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Europe 1.
De 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
Et avec l'ancienne directrice du patrimoine Marie-Yvonne de Saint-Pulgent et le professeur d'histoire de l'art Clément Salviani à propos de Notre-Dame et de celui qui lui a redonné vie il y a 150 ans, qui a réinventé cette cathédrale, Eugène Viollet-le-Duc. Je disais tout à l'heure en forme de boutade, faut-il brûler Viollet-le-Duc? Mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent? D'abord, est-ce qu'il faut reproduire sa flèche? Cette flèche qui a été souvent décriée parce que trop haute ou pas comme Il aurait fallu la faire comme elle était au Moyen-Âge. Personne ne sait comment elle était.
Non.
Elle fait partie du patrimoine ?
Ah ben c'est incontestable. Juridiquement, elle a été classée monument historique avec le reste de la cathédrale et classée de la même façon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait partie des éléments que normalement la Charte de Venise oblige à reconstituer si on peut le faire sans inventer. Hein, c'est le principe de la Charte de Venise, c'est que vous restaurez tout ce qui est restaurable sans errer, quoi. Alors, c'est là où la situation de Viollet-le-Duc était différente. D'abord, il n'y avait pas la Charte de Venise, mais et il débutait. Il faut voir, c'est le premier architecte en chef des monuments historiques. C'est lui qui fabrique la doctrine. Donc, voilà. Mais lui, il ne sait pas comment était la flèche d'avant. Il n'a pas les documents. Il a des images, mais pas ce qu'on appelle la documentation. La flèche de Viollet-le-Duc, en revanche, est parfaitement documentée. Donc, si on s'en tient au principe de la Charte de Venise et à ceux de l'UNESCO, et j'espère que l'UNESCO ne va pas faire des compromis avec sa propre doctrine à ce propos, nous pouvons restituer intégralement la flèche de Viollet-le-Duc, là aussi en revoyant les questions de matériaux, parce que l'âme était en sapin, la couverture en plomb, donc peut-être qu'on peut faire ça autrement, ouais. Mais esthétiquement, ça fait partie de l'image de Notre-Dame, c'est celle que tout le monde connaît. Quant à Viollet-le-Duc, c'est un grand architecte, il fait partie de l'histoire de l'architecture, et au passage, je salue la position de Jean Nouvel, qui tout en se disant disposé à aider, à créer quelque chose pour Notre-Dame, a dit qu'il ne voulait pas se substituer à Viollet-le-Duc. Ouais. Donc, restons-en à l'opinion d'un des plus grands architectes français, qui est un créateur incontestable, connu dans le monde entier, qui ne veut pas supprimer Viollet-le-Duc.
Donc, pas de création contemporaine, Clément Salviani.
Moi, je rejoins
pas
cet avis, c'est-à-dire que...
pas là.
Un édifice comme Notre-Dame, on le disait tout à l'heure, c'est un ensemble de strates, de couches différentes, et d'ailleurs, même le transept d'origine, il n'existe plus, il a été remanié plusieurs fois. C'est un bâtiment dont on a l'impression qu'il est uniforme, unique, 13e siècle. En fait, c'est faux. C'est une vraie stratification. Les peintures à l'intérieur ne sont pas médiévales. L'autel, les statues ne le sont pas non plus. Viollet-le-Duc, il a créé une doctrine. Il a été un des pionniers à une époque où la science de la restauration était dans sa période formative. Il n'est pas allé complètement au hasard. Il avait tout un tas de documents médiévaux, d'autres plans d'architectes de l'époque médiévale. Il faut savoir que le gothique, c'est quand même un langage formel, une grammaire de décor, une grammaire d'architecture qui est très intégrée, très cohérente, dont on a des traces dans toute l'Europe, du Nord, du Sud, puisque c'est un art qui va vraiment se répandre. Donc il a utilisé quand même des documents d'archives pour formuler quelque chose de cohérent. Et surtout, comme on le rappelait, on a ses plans. On a ses plans. Ce qu'il a fait est patrimonialisé. Le débat sur sa pertinence architecturale est, à mon avis, dépassé depuis un moment. Et de fait, c'est classé. On a les statues de la flèche qui ont été déposées avant l'incendie.
D'accord. Mais pourquoi alors lancer un concours d'architecture, Marie-Vonne de Saint-Pulgent ?
Je ne sais pas. Vous savez, c'est le réflexe.
C'est pas un concours, s'il faut.
Le réflexe habituel. On pense que le patrimoine ne se suffit pas lui-même, qu'il faut absolument des créateurs pour le rendre respectable, je dirais. Le patrimoine, ce n'est pas moderne, c'est traditionnel, c'est ceci, c'est cela. Mais enfin, il y a de la place pour la création architecturale ailleurs. D'ailleurs, on ne s'en prive pas. On ne s'en est pas privé à Paris. On admire ce qu'ont fait les différents architectes qui ont eu des commandes de l'État pour le faire. Mais normalement, quand un monument historique de cette ampleur brûle, on le restaure. Ouais, ouais. Voilà.
Mais alors, vous allez avoir les grands architectes du monde entier qui vont vouloir poser leur marque ou leur ego sur le toit de Notre-Dame.
Oui, mais ça c'est certain, on les comprend, mais en même temps, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors moi j'ai une autre proposition, si on veut absolument faire une création, on va devoir faire un parapluie, d'ailleurs, qui va être un gigantesque un abri
un
assez vilain par lui-même, nécessaire, une espèce de sarcophage nécessaire
pour
mettre le bâtiment à l'abri. Ça va être assez vilain et ça va durer des années. Donc faisons une commande d'art urbain pour habiller cette structure. L'art urbain n'est pas forcément destiné à rester. On peut faire une commande, etc. Ce ne sera pas un architecte, mais ce sera un artiste contemporain.
C'est quoi, une palissade décorée
Une palissade
améliorée, enfin quelque chose.
On est au-dessus de la palissade.
Christophe voulait emballer l'Arc de Triomphe. Il faut trouver un emballement de cette structure et on aura de l'art contemporain. Ce sera très bien. Il y a de grands artistes qui peuvent faire ça très bien si on veut absolument faire de la création. D'accord. Par ailleurs, il y a à l'intérieur de Notre-Dame des éléments de décor ont disparu définitivement et qui, eux, ne sont pas reconstitués parce qu'on ne reconstitue pas les décors. On reconstitue l'architecture, mais on ne reconstitue pas les décors. Il y a probablement de la place pour des créations à l'intérieur aussi. Voilà.
Ouais. Un mot encore, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, sur l'argent qui est mis en œuvre. Là, c'est considérable. Plus d'un milliard d'euros récoltés. 500 millions d'euros alloués par trois grandes fortunes Arnaud, Pinault et Bettencourt. Le budget de l'État pour le patrimoine, c'est combien aujourd'hui?
Alors, en crédit de paiement, c'est-à-dire en capacité à payer les gens, c'est 330 millions,
ouais,
hein, à peu près.
On est à trois
fois
plus.
Ce qui est à moins de 10% du budget total. Là, on est à trois fois plus, pour être dépensé en une année quand même.
C'est là où
on voit deux choses. D'une part, la capacité de ces grands mécènes à se mobiliser pour un investissement qui est encore une fois un investissement économiquement intéressant. Hein, parce que ça va faire des emplois, des... Voilà.
On considère qu'un euro investi dans la culture en rapporte 20 à 35 ultérieurement, hein,
dans
en
ce domaine,
retombées indirectes.
Voilà, oui, mais même directement, parce que quand vous faites des travaux, quand l'État fait des travaux, il y a 45% de prélèvements fiscaux et sociaux
sur toutes les
dépenses faites en France, dans le PIB. Donc il va récupérer. L'État et le budget de l'État et les budgets sociaux vont récupérer 45% de ces sommes. Donc, il faut saluer, on dit que les grandes fortunes n'investissent pas dans l'économie française, là, ils investissent dans l'économie française. La deuxième chose, c'est que ça libère l'État de la charge budgétaire de restaurer ce bâtiment, ce qui veut dire que le budget ordinaire de l'État va pouvoir être mis ailleurs. C'est très important, c'est une très bonne nouvelle pour le reste du patrimoine. Et la troisième observation, c'est qu'on constate une fois de plus que les crédits publics pour les monuments historiques sont insuffisants au regard des besoins.
Largement.
Et ça n'est pas seulement ceux de l'État, ce sont aussi les crédits des communes.
Merci beaucoup Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Merci à vous Clément Salviani d'être venu nous éclairer ce matin sur le devenir de Notre-Dame.
Europe 1.
Dans un instant, Angélique Kidjo qui, elle, redonne vie à la cubaine Celia Cruz et qui chantera ce soir pour Notre-Dame. Elle va nous dire quoi? Un indice chez vous, Joséphine Baker.
Europe 1,
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1.
Vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Angélique Kidjo.
Bonjour.
D'abord, puisqu'on vient de parler longuement de Notre-Dame, quelques mots sur l'événement auquel vous allez participer ce soir dans la cour des Invalides, concert de solidarité pour la cathédrale incendiée. Qu'allez-vous chanter ?
Je vais chanter une chanson qui est connue dans le monde entier, c'est « J'ai deux amours ».
Joséphine Baker.
Absolument. La cathédrale, pour moi, représente un lieu de rencontre, un lieu neutre pour qu'on puisse se ressourcer et qu'on puisse se retrouver. Avant d'être un monument, c'est un endroit de paix, en fait. Donc, pour moi, cette cathédrale, j'y étais il y a un an et... C'est grandiose, on se sent tout petit dedans, mais en même temps, on se sent très fort aussi quand on sort de là.
J'ai deux amours, donc, dans la voix d'Angélique Kidjo, et puis c'est toujours bien de rendre hommage aussi à Joséphine Baker, qui était une très, très grande artiste. J'imagine qu'elle fait partie de vos admirations. Celia, c'est votre nouvel album, Angélique Kidjo, magnifique et puissant. Celia, c'est Celia Cruz, immense chanteuse cubaine disparue en 2003, la reine de la salsa, dont vous reprenez 10 succès, mais en y ajoutant percussions et sonorités africaines. Vous nous direz pourquoi et comment, après qu'on ait entendu l'ouverture de l'album, le très joyeux et entraînant Kukala.
Kukala, 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 kuka kukala ke ya sabe. Kukala kukala, kuka kukala ke ya sale. Esta moderna es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Kukala kukala, kuka kukala ke ya sale.
Kuka kukala que se hace, kukala, kukala, kukala que kuka kukala que ya sabe. Kukala kukala, kuka kukala que se hace.
La voix d'Angélique Kidjo en direct. Kukala, un titre de Celia Cruz de 1975, augmenté par la batterie de Tony Allen, l'un des grands noms de l'afrobeat, la basse de Michel Djeo Cello et les arrangements de David Donatien, celui qui a porté Yael Naïm. Vous n'avez pas fait les choses à moitié. Hein.
Pourquoi les faire à moitié? Quand on a la possibilité, les opportunités de faire de belles choses, il faut les faire. Ce monde a besoin de plus en plus de belles choses pour contrebalancer toute cette haine et cette violence qui avance. Moi, je pense que ce n'est pas par les armes qu'on gagnera, mais c'est par la musique, par l'amour et les belles choses.
Bon, magnifique production. Parlez-nous de Celia Cruz, que vous avez connue.
Ah oui. j'ai... Rémi Colpacopoul m'a appelé un soir en
qui
me disant...
Qui était un grand nom du journalisme rock.
Absolument, il m'a appelé un soir en me disant... Alors Angélique, qu'est-ce que tu fais ? Il y a Célia qui est à Paris. Je lui dis, attends, Rémi, si c'est une blague, c'est vraiment pas marrant. Je suis dans mon pyjama, j'ai pas envie de bouger. Il me dit, ben, c'est comme tu veux. Je suis partie en flèche dans la chambre. Je ne sais même pas comment je me suis débrouillée pour m'habiller. Et on a pris la voiture. Et elle jouait au Méridien de Montparnasse. Ouais. On est arrivé et je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Tout le monde était déjà sur scène, sauf Célia qui était dans sa loge. Donc j'arrive, il m'introduit et puis elle me dit « Mierman Africana ». Et puis on a commencé à parler. Moi, je ne parle pas l'espagnol, elle ne parle pas bien le français, pas vraiment bien l'anglais. Donc j'ai commencé à baragouiner ma version de Kimbara. Et puis il m'a dit non, tu vas chanter, tu viendras sur scène chanter avec moi. Et elle m'invite sur scène pour venir chanter. Et je vois la tête de son mari qui est le chef d'orchestre. Il se retourne genre, mais c'est quoi cette galère? On n'a pas répété, c'est qui cette nana? Elle n'a rien dit à personne. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Et le mec il s'est retourné, il a fait, bon d'accord. Il a commencé à chanter, j'ai fait ma choucroute de Kimbara. Elle était morte de rire. Ouais.
Sacrée personnalité, Celia Cruz, très forte personnalité, grande vedette aux États-Unis aussi, après son refus de retourner à Cuba lors de la prise de pouvoir de Fidel Castro.
Ouais, c'est une grande, pas seulement une grande artiste, c'est aussi une être humain qui est très très généreux. Elle était très généreuse. Et sur scène, ce mot azúcar qu'elle disait, ce n'est pas seulement le sucre, c'est-à-dire qu'elle voyait toujours les bons côtés de la vie. C'est cette philosophie de vie qui fait qu'elle elle s'est créé tout ce personnage flamboyant pour dire aux gens, là, le moment qu'on a, il faut célébrer. Chaque moment dans la vie peut être le dernier. Il faut le vivre, il faut vivre ces moments-là le plus intensément possible. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez Célia, c'est cette façon qu'elle a eue de fédérer toutes les musiques, en fait. Elle n'a jamais eu honte de sa culture et de son identité africaine. Elle a chanté dès le départ de sa carrière à Cuba. Et quand elle est partie, elle a maintenu cette culture très vivante. Sa façon de chanter est unique parce que sa voix, ce n'est pas seulement une voix de chanteuse, c'est une voix de percussionniste.
Ce que vous avez chanté avec elle, donc ce soir-là, vous nous l'avez raconté, c'était ce Kimbara dont voici votre version.
C'est dur.
Me está llamando, bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico, mientras canto un guaguanco. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco, ella.
Angélique Kidjo qui chante au micro d'Europe 1 sur l'enregistrement de son disque. C'est troublant ce que vous chantez là, Angélique Kidjo, parce que vous chantez en espagnol, il y a ce rythme. On se dit, on est en Afrique ou on est à Cuba là ?
Ah, les deux, c'est pareil pour moi. Parce que sans l'Afrique, il n'y aurait pas la musique cubaine, ouais, comme on la connaît aujourd'hui. J'ai réussi à mettre Kimbara en 6-8, qui est à l'origine, c'est une clavée, une cloche, un pattern de rythme qui se retrouve partout dans le monde. C'est-à-dire, on peut le faire en 4-4, on fait à 2-4, on fait ce qu'on veut. Le 6-8, on peut l'amener de n'importe où, on peut le subdiviser de plusieurs façons. Et c'est ça qui était à la base de la santeria, de la musique cubaine, des descendants d'esclaves qui étaient là-bas et qui a créé toute cette musique. Donc il y a eu aussi un va-et-vient constant entre l'Afrique et le Cuba à la fin de l'esclavage aussi. Donc la rumba cubaine est arrivée, ça a influencé la rumba congolaise. C'est toujours un aller-retour. La musique est un constant rappel pour moi et qui doit être un rappel constant aussi pour tout le monde que la race humaine n'est pas pure, elle est métissée, et que notre histoire est faite de voyages et de rencontres et de choses imprévues.
Et votre album l'illustre merveilleusement, Angélique Kidjo. Il y a aussi une énergie, un rythme assez irrésistible. Un dernier exemple, c'est un autre succès de Celia Cruz, Toro Mata.
Toro Mata, Toro Mata, Toro Mata, Rumbambero, Toro Mata, Toro Toito.
Est-ce que votre espoir, Angélique Kidjo, est que ce titre et quelques autres de l'album arrivent sur les pistes de danse pour les mois à venir?
Absolument, absolument. Pas seulement sur les pistes de danse, que ce soit dans les, toutes les maisons tous les jours. et que les gens se lèvent le matin en se disant « Ah, même si j'ai des galères aujourd'hui, avec cette musique, je vais y arriver. » Il faut toujours se lever le matin en se disant « Quels que soient les défis ou les problèmes qu'on va rencontrer, nous sommes avant tout des êtres humains et qu'on peut trouver des solutions à nos problèmes. » Et moi, j'aimerais que les gens écoutent cette musique-là le matin et le soir pour se coucher, pour se donner la force, pour dormir bien. Elle se réveille le matin et recommence à tout à zéro.
Et puis le soir, au besoin, le 14 mai au soir au Bataclan, allant vous voir sur scène, par exemple aussi.
Pour le 14 mai, il faut amener des chaussures de danse. Hein. Ça, c'est clair, parce que ça va être chaud.
Merci beaucoup, Angélique Kidjo. Célia, votre nouvel album. Merci d'être venu nous en parler.
Retrouvez C'est arrivé demain, tous les dimanches de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.